Corps,
amour,
sexualité.
Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Radio Kaléidoscope, l'émission Calibre en direct ce soir 22 septembre. Les vacances, c'est terminé, malheureusement. Mais heureusement, on vous retrouve, vous nous retrouvez, vous fidèles auditeurs ou auditrices ou nouveaux et nouvelles qui découvrez notre émission, donc Calibre, libre antenne. Ça veut dire que vous pouvez nous appeler, que ce soit pour nous poser des questions ou pour nous parler d'un truc, partager avec nous des réflexions, une philosophie, enfin un peu ce que vous voulez, libre quoi. Par téléphone 04 76 09 09 09. Mais quand même, le sujet dont on parle principalement dans Calibre, c'est les trucs qui tournent autour du corps, de la sexualité, de ces histoires autour de l'amour, des trucs affectifs et tout. Mais l'amitié aussi, par exemple, ça rentre dedans. Voilà, donc n'hésitez pas à nous appeler. Nous, ça nous fait toujours plaisir de vous accueillir et de discuter avec vous. Et en attendant vos appels, ce soir on a prévu, alors oui, je peux déjà présenter, à l'antenne il y a Pascal, une nouvelle, non, une remplaçante qui donc voilà, est venue me soutenir ce soir, puisque Emma était malade, nous pensons à elle d'ailleurs.
On fait front à la gastro.
Voilà. Et puis Marina, donc moi, voilà. Et à la technique, Laura et Alice, pour vous accueillir au téléphone quand vous nous appellerez. Donc ce soir au programme, on va parler de la grosseur.
De la piscine.
D'une gynéco, enfin des gynécos.
De bouquins.
Voilà, un petit agenda à la fin, voilà, des petites infos. Eh ben, on va commencer par écouter un petit morceau de musique. N'hésitez pas à nous appeler 04 76 09 09 09 et on va s'écouter un petit morceau de Nina Simone, Ain't Got No Money, I Got Life. La piscine, c'est un chouette concept, c'est pas trop cher, puis en ville, on peut aller se baigner et nager par tous les temps. Bon, c'est pas si simple. Hein. Souvent, j'ai envie d'y aller avec des copines, avec des amis, parce que bon, ça donne du courage et puis la motive, et puis on pourrait papoter entre quatre longueurs. Mais voilà, il y a toujours un truc compliqué qui va pas. Il y a celles qui ont des complexes, c'est pas facile de se mettre en maillot de bain à moitié à poil devant plein d'inconnus, ou même les amis. Les vieilles résurgences de l'angoisse des cours de PS à la piscine au collège, Quelle excuse pour se faire dispenser déjà ? Et tous les magazines féminins ne sont pas d'un grand soutien, hein, au contraire. Bon, il y a celles qui s'épilent pas et qui ont le poil fou, dru, soyeux, mais l'assumer à la piscine, c'est pas facile. Il y a celles qui sont vieilles, la peau qui plisse et qui pend. Il y a celles qui sont grosses, celles qui se trouvent grosses et celles dont on voit trop les os. Il y a les amis trans pour qui exposer leur corps, ça peut être source d'emmerde, voire d'agression. Il y a celles qui ont la flemme, soi-disant. Il y a même celles qui sont allergiques au chlore. Et puis celles qui savent pas nager. Bon, ben moi, au milieu de tout ça, ben, je vais pas souvent à la piscine. Mais souvent, surtout, je suis un peu énervée contre cette société basée sur les apparences et qui fait que nos corps, ils seront jamais parfaits, qu'on sera toujours complexés ou flippés. Bon, tout ça alors que je voulais juste aller nager.
Moi, ça me fait penser à une discussion avec des copines où on parlait de comment c'était pas facile de montrer son corps. Et puis l'histoire du maillot de bain. Toujours cette question, on choisit quel maillot de bain ? Une pièce qui fait que ça veut dire on n'assume pas du tout nos bourrelets, ou alors le deux pièces, mais pour le coup, on voit tous nos bourrelets.
Voilà, toujours ces injonctions contradictoires un petit peu compliquées. Ouais, voilà, j'avais envie de parler un peu de la piscine, comme ça, un petit clin d'œil, et puis surtout encore un appel à témoignage, parce que c'est un lieu pas simple, c'est un lieu de social où il y a plein d'injonctions et plein de trucs qui se passent, quoi, et c'est malheureusement pas juste un endroit où on prendrait du plaisir à barboter dans l'eau, quoi.
Bah, c'est un endroit où on s'expose, en fait, où on montre nos corps, et où si on n'aime pas trop nos corps, ou si on se sent pas très à l'aise avec eux, et ben, le montrer aux autres, c'est toujours un truc compliqué.
Moi, j'ai l'impression que même si on aime notre corps en soi, on peut quand même sentir les regards des autres, tu vois. Parce qu'il y a vachement ce truc de regard, quoi. Même inconscient, je pense, justement, sur des corps qui ne seraient pas tout à fait comme on a l'habitude d'en voir. Puis, c'est quoi les corps qu'on a l'habitude de voir ? Malheureusement, c'est des corps qui n'existent pas vraiment, en fait.
Oui, tous les corps de la pub. Et tout,
Donc, bon. Voilà, c'est dommage parce que ça pourrait juste être un endroit où on prendrait du plaisir à nager, à sentir l'eau partout. Et puis ça fait penser, c'est vrai là un peu aux histoires de un peu les débats qu'il y a, voire les polémiques sur est-ce qu'il faudrait qu'il y ait des trucs non mixtes, des horaires non mixtes dans les piscines. Pour les femmes, par exemple, pour qu'elles puissent peut-être se sentir plus à l'aise, parce que bon, il se trouve que le regard des hommes font partie des regards qui ne sont pas forcément simples, même si les regards des femmes sur les femmes ne sont pas simples non plus forcément, mais bon, il y a ces débats-là, ça me fait penser à ça. Toi, tu disais que tu étais allée en Allemagne.
Oui, moi, ça me rappelle un voyage en Allemagne où on était allé au sauna avec des copines, et le sauna en Allemagne, en général, c'est à poil, et du coup, ils ont vraiment instauré un truc de créneau en non-mixité. Du coup, des créneaux où il n'y a que des femmes et des créneaux où il n'y a que des hommes. Et c'est vrai que c'était hyper agréable et assez évident pour tout le monde que c'était normal qu'il y ait ces créneaux-là en non-mixité. Et j'avais trouvé ça assez étonnant après de voir qu'en France, ça passait mal à plein de moments, l'idée de la non-mixité. Et là, je suis allée un peu voir des blogs et tout sur Internet avant de venir. Et c'est vrai qu'il y a plein d'endroits où ça annonce des créneaux ouverts en non-mixité dans des piscines. Et en fait, du coup, sur Internet, il y a des réactions hyper violentes, comme si c'était rétrograde de réinstaurer la non-mixité, comme si c'était un retour en arrière et pas un moyen que plus de femmes puissent se sentir à l'aise à la piscine parce qu'elles sentent moins justement le regard masculin.
Ouais, c'est un grand débat. Je pense qu'il y a d'autres gens qui pourraient dire oui, mais c'est pas comme ça qu'on avancera. J'imagine que peut-être vous avez une opinion là-dessus. Vous pourriez nous appeler pour nous la dire. C'est aussi fait pour ça, la libre antenne. Moi, ça me fait aussi penser à ces féministes, il me semble, de Paris, hein, qui font partie du groupe des Tumultueuses. Elles ont un blog et elles ont fait des actions dans les piscines. Alors, elles, c'est un peu. Enfin, je ne sais pas si c'est le contraire, mais en tout cas, elle trouve ça pas juste que les filles soient obligées d'avoir un maillot de bain en haut, alors que les hommes ont le droit de juste avoir un slip de bain. Et donc, elle trouve que c'est une injustice qui n'est pas fondée. Et donc, elle revendique le droit de pouvoir se baigner en slip de bain.
Torse nu.
Torse nu, autrement dit. Donc, elles vont dans les piscines, comme ça, et puis elles vont se baigner torse nu, ce qui est complètement interdit. Hein, dans les piscines, on est obligé d'avoir un haut de maillot de bain quand on est une femme. Et donc elles y vont, et bon, en général, là, elles se font jeter par le maître nageur d'abord, et puis qui appelle les flics. Alors elles racontent des trucs assez cocasses, ou alors qu'on leur a parlé d'hygiène, qu'on leur a parlé de bienséance, de sexualisation des corps. Enfin bon, on leur donne plein d'arguments, mais notamment des arguments d'hygiène. Là, après, il y a les flics qui arrivent dans la piscine en bottes. Vous voyez, l'hygiène, on ne sait plus trop où elle est. Et puis voilà, il y a les, voilà, bon, c'est, je pense qu'elles interrogent aussi les normes de genre, quoi, les normes de comment est-ce qu'un homme doit être ou une femme doit être. Alors une citation d'un maître nageur qui m'a fait beaucoup rire: un mec, un vrai, il a le torse ouvert avec des poils. Parce qu'une fois aussi, elles sont venues avec des hauts de maillot de bain qu'elles ont proposés aux hommes. Elles ont dit, ben, si on doit avoir des hauts de... si on doit pas voir les tétons des femmes, pourquoi on pourrait voir les tétons des hommes? C'est pas juste. Donc elles ont proposé aux hommes de mettre des hauts de maillot de bain. Et donc là, le maître nageur a dit qu'un mec, un vrai, ça a le torse ouvert avec des poils. Donc comme ça, on ne confond pas, ce qu'il ne faudrait pas confondre.
Et comme ça aussi, on inculque bien dans la tête des hommes ce qu'ils doivent être. Alors, ils n'ont pas intérêt à manquer de poils, ni de virilité, ni de muscles si possible.
Ouais, ouais. Et puis voilà, ça contribue probablement aussi à ce truc de sexualisation des corps, et notamment des corps de femmes. Et donc, les seins des femmes, c'est quelque chose qui va rester caché parce que c'est quelque chose qui va être rentrer dans l'ordre du sexuel. Pourquoi plus les seins que les coudes? J'aimerais bien savoir pourquoi c'est plus sexy, quoi. Je voudrais qu'on m'explique.
Oui, et pourquoi les seins des femmes seraient plus sexuels que les seins des hommes aussi, en fait.
Donc voilà, ça me donnait envie de leur faire un petit clin d'œil. Voilà, elles ont fait ça plusieurs fois. Je vous invite à aller voir, parce qu'elles ont tout un argumentaire. Évidemment, elles ont des tracts et tout, hein, mais que je ne vous lirai pas ici. Donc, elles ont un site internet, tumultueuse. @réseau.com.
Et ça doit être leur adresse mail.
Ah bon, pardon. Oui, je suis nulle. Bah, j'ai pas leur adresse.
En tout cas, leur nom, c'est Tumultueuse. Et du coup, avec un moteur de recherche, on doit trouver facilement.
Ouais, je pense. Hein. On mettra le lien sur notre site à nous.
Puis elles ont des textes assez classe qu'elles ont distribués, je crois, aux entrées des piscines pour expliquer pourquoi elles faisaient ça.
Ouais. Voilà, donc c'était un peu un petit truc sur les piscines. Bon, c'est la rentrée, alors c'est fini, on pourra plus aller se baigner, il va faire froid, on pourra plus aller se baigner tranquillement dans les lacs où je trouve qu'il y a un peu plus de liberté quand même. Justement, on peut facilement trouver des coins où on s'en fout un peu de si on a un vrai maillot de bain ou juste une culotte un peu défraîchie et si on a un peu trop de poils ou un peu débourlé là où il en faudrait pas. Enfin, je trouve qu'il y a plus de liberté quand même sur quand on va se baigner dans des rivières ou des lacs. Je pense que la plage, c'est encore autre chose.
Mais c'est qu'aussi, quand on va au bord de lac ou au bord de rivière, on peut un peu plus se planquer avec ses amis et c'est assez plus rassurant quand même.
C'est vrai. La plage, je pense que c'est aussi un bon lieu de pression sociale et normative. Donc, d'ailleurs, voilà, on vous appelle toujours, on vous encourage toujours à venir témoigner, à nous appeler au 04 76 09 09 09 si vous avez envie de nous raconter vos expériences de l'été ou comment vous allez trouver la motivation d'aller à la piscine toutes les semaines cette année. J'en sais rien. En tout cas, voilà, on va s'écouter un nouveau morceau de musique avant de vous parler de totalement autre chose après. C'est Sophistique, c'est une chanteuse marseillaise, une artiste marseillaise, compositrice, tout ça. Voilà, avec une chanson qui s'appelle La Tactique et qui en vrai, je crois, est plutôt une reprise détournée. Je vous laisse écouter.
Je préfère glander au bord de la mer, ne pas devoir partager ma misère. Je préfère de vivre sans toi ni loi, de claquer tous mes sous dès le début du mois, que d'aller procréer, plutôt jouir, que d'aller procréer. Je préfère de foutre la pagaille qui t'a passé la nuit avec la flicaille. Je préfère déprimer sans cachetonner et de n'avoir que mon cul à torcher que d'aller procréer, plutôt jouir que d'aller procréer. de dealer avec un géniteur et de devoir me réveiller de bonne heure. Je préfère sortir et faire la Java et manger n'importe quand, n'importe quoi, que d'aller procréer, plutôt, plutôt jouir, que d'aller procréer. Faire plein de voyages sans surplus de bagages, que d'aller procréer. Picoler toute la nuit et fumer dans son lit, faire l'amour sans vergogne et garder sa liberté.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Kaléidoscope 97 FM avec l'émission Calibre, l'émission de Libre Antenne pour parler d'amour, de sexualité, de rapport au corps. Libre à vous de nous appeler 04 76 09 09 09. Et là, on écoutait un petit morceau de Sophistique. Et c'est l'occasion aussi de faire un petit clin d'œil aux radios rageuses, et notamment, donc Radio Rageuse, c'est une espèce de réseau d'émissions un peu lié à cette question des femmes, des droits des femmes, du féminisme et tout, et Calibre en fait partie de ce réseau-là. Et dans ce réseau, Radio Rageuse, il y a un site internet. Toi, tu connais le site, ouais.
www.radiorageuse.net, et Radio Rageuse, c'est tout attaché. Radio au singulier et rageuse au pluriel.
Ah voilà. Et donc dessus, vous pouvez trouver un peu toutes les émissions qui participent à ce réseau, notamment Calibre, aussi Dégenré qui est sur Radio Kaléidoscope aussi, et puis des émissions d'autres villes, et notamment Le Complot des Cagoles, les Marseillaises, et ce sont elles qu'on entendait faire les chœurs sur la chanson qu'on vient d'écouter, donc c'est l'occasion de leur faire un petit coucou. Pour continuer, on voulait vous lire une lettre ouverte qu'on a trouvée sur un site. On a souvent aussi parlé de ce site parce que c'est un site chouette, tenu par une nana chouette, comme il y en a. Donc c'est Zone Zérogène, et j'ai trouvé cette lettre ouverte qui a été écrite par... j'ai qu'à vous lire l'introduction de...
Peut-être Zone Zérogène, on peut détailler si vous voulez, il y a plein de textes et tout, ça s'écrit zone, espace, zéro, espace, gêne, comme être gêné.
Et pareil, on mettra le lien sur notre site à nous. Donc elle dit « Bonjour, je viens d'envoyer à la première gynécologue que j'ai consultée un courrier lui expliquant comment elle et ses confrères m'avaient privé de 10 années de vie sexuelle épanouie. Bien sûr, il est de notoriété publique que la pilule peut avoir des conséquences sur la libido. Sauf que moi, qui sais lire, écrire et qui dispose d'une connexion Internet, j'ai mis 10 ans à comprendre que mon problème venait de là. Et que lorsque j'en parle autour de moi, je vois des yeux qui s'ouvrent grands. Les yeux des filles qui ont commencé très jeune la pilule et qui ne l'ont jamais arrêtée, ou ceux de leurs copains qui se disent que peut-être, ouais, ça peut être à cause de ça. Je ne sais pas si la publication de cette lettre ouverte fait partie des choses envisageables sur ce site, mais je pense qu'elle pourrait aider d'autres laissés pour compte de la pilule. » Donc nous, on va vous lire sa lettre à deux voix pour le confort de vous et de nous.
« Madame, je suis venue vous voir en consultation il y a bien longtemps, en 96-97 environ. À l'époque, j'avais 17 ans, de l'acné et pas encore de vie sexuelle. Je n'en étais toutefois pas très loin, et je crois me souvenir que j'avais déjà rencontré à ce moment-là le garçon qui est devenu mon mari. J'avais confiance en vous, vous étiez la gynéco de ma mère, et c'est sans doute sur ses conseils que j'étais venue vous voir, pour traiter mon acné, et surtout pour une première visite un peu initiatique, celle qui donne l'impression qu'on commence à être une femme. Vous m'avez alors proposé, en tout cas prescrit, une pilule contraceptive efficace sur l'acné. Diane, 35. Je suis ressortie de votre cabinet avec une ordonnance, me sentant sans doute doublement féminine. Une pilule et une prise de sang tous les ans pour contrôler mon cholestérol. Je jouais dans la cour des grandes.
J'ai continué à prendre Diane pendant plusieurs années, puis j'ai opté pour une pilule moins dosée jusqu'à arrêter lorsque j'ai voulu avoir mon premier enfant. Entre-temps, j'avais changé de ville, donc de gynécologue, plusieurs fois. Ma première grossesse est arrivée très vite, 4-5 semaines après l'arrêt de la pilule. Mais après l'accouchement, je n'avais plus envie de reprendre de comprimés. Après en avoir discuté avec mon gynécologue d'alors, j'ai choisi de mettre un implant progestatif environ un mois et demi après la naissance du bébé. Cette première période sans contraception a donc été courte et chamboulée à tout point de vue. Et cette conception, grossesse, postpartum. J'ai gardé l'implant environ 2 ans jusqu'à le faire enlever pour essayer de concevoir un deuxième bébé. Et cette fois-ci, j'ai attendu environ 4 mois avant d'être enceinte. 4 mois de plénitude sexuelle.
J'ai attribué cette libido réjouissante à mon envie d'être enceinte. Pour mon mari et pour moi, c'était une vraie découverte. Pendant plus de 10 ans, j'avais été celle qui n'avait presque jamais envie de faire l'amour. Celle qui était sûrement un peu frigide. Celle que la sexualité n'intéressait pas trop. Nous avons passé des soirées entières à décortiquer son désir à lui et mon absence de désir à moi. Et il a fallu s'aimer vraiment fort pour continuer quand même, pour s'habituer à ce déséquilibre, pour ne pas se blesser l'un l'autre. Et là, brusquement, j'avais autant envie de faire l'amour que lui. C'était comme de recevoir un décodeur Canal+, après avoir passé 10 ans à regarder des films cryptés.
Sauf qu'après la grossesse, ma gynécologue n'a pas voulu me reposer d'implant avant le retour de couche, lequel est arrivé au bout de 10 mois environ. Qui furent évidemment 10 mois de plénitude sexuelle, abstraction faite de la contrainte liée à l'utilisation de préservatifs. Au bout de 10 mois, donc, nouvel implant et soupir de soulagement. Nous allions enfin abandonner les préservatifs. Sauf que 2 jours après la pause, ma libido était revenue à la case Waterloo morne pleine. Évidemment, cette fois, j'ai immédiatement fait le rapprochement et je me suis fait enlever ce satané implant aussi vite que possible. Depuis, ma libido est aussi riche, réjouissante et parfois surprenante que ce qu'elle aurait dû être depuis mes 17 ans. Mais madame, je garde contre vous une rancune énorme, contre vous et contre les gynécologues que j'ai croisés ensuite et qui m'ont enlevé 10 ans de vie sexuelle épanouie.
Avez-vous fait votre travail en n'évoquant jamais, avec la jeune fille que j'étais, la possibilité qu'une contraception hormonale diminue ma libido ? Si ça peut vous rassurer sur votre professionnalisme, aucun autre gynéco ne l'a fait après vous. Quand il m'est arrivé de poser la question, au moment où j'ai décidé de troquer ma pilule contre un implant, votre confrère parisien m'a dit « Oui, la pilule peut avoir un effet sur la libido, mais parfois elle la diminue et parfois elle l'accentue. » Et comme je ne lui ai pas dit « Mais alors moi, je suis frigide ou c'est la pilule ?» Ben, je suis ressortie de chez lui bien avancé, sans savoir ce qu'il en était pour moi.
Combien de filles dans mon genre ont cru et croient encore que la sexualité n'est pas faite pour elles, juste parce qu'elles n'ont connu qu'une sexualité sous hormones ?
Combien d'hommes ont cru et croient encore qu'ils ne seront jamais désirés par la femme qui est dans leur lit et culpabilisent en pensant qu'ils sont des obsédés sexuels ?
Combien de filles et de femmes n'osent simplement pas parler de leurs difficultés sexuelles à un médecin ou à leur entourage parce que c'est gênant et parce que la conclusion de l'échange risque de les renvoyer à quelque chose comme « Décidément, oui, je crois que c'est moi qui dois avoir un problème. »
Combien de couples déchirés ?
Mais bon sang, qu'est-ce que ça vous aurait coûté d'en parler ? Est-ce que ça n'est pas votre métier d'informer vos patientes sur les conséquences des traitements que vous leur prescrivez ? Est-ce que ce n'est pas doublement votre responsabilité lorsque ça touche à un domaine sensible, la sexualité, a fortiori chez une fille de 17 ans ?
Et puis je ne peux pas m'empêcher d'imaginer ce que vous auriez pu me dire lors de ce premier rendez-vous, par exemple. Étant en parfaite santé et n'ayant aucun symptôme lié à un problème gynécologique, une consultation chez la spécialiste que vous êtes était inutile.
Mon acné pouvait certes être résorbé grâce à une contraception orale, mais cela impliquerait un certain nombre de contraintes, risque d'augmentation du cholestérol, risque de modification de votre désir sexuel, etc. Un marteau-piqueur pour écraser une mouche ?
Indépendamment de l'acné, d'autres moyens de contraception étaient également disponibles. On peut imaginer que je n'aurais jamais pris Diane ou que je l'aurais arrêtée rapidement. Et nous aurions, mon mari et moi, gagné 10 ans de plaisir et de confiance en nous-mêmes.
Cette lettre ne me rendra pas la libido que j'aurais dû avoir à 20 ans.
Peut-être même que depuis, vous informez mieux vos patientes et qu'elles s'informent elles-mêmes sur Internet et se laissent moins faire.
Mais je tenais quand même à vous le dire, en hommage à mes 10 ans de coma sexuel.
Meilleure salutation,
Émilie. Voilà, c'est donc je pense que c'est un témoignage important parce que c'est quelque chose d'assez important vu le nombre de femmes qui utilisent la contraception hormonale par voie orale, donc la pilule. Alors je pense pas que c'est toutes les femmes que ça atteint de la même façon, comme tous les trucs qu'on ingère, quoi. Ça n'a pas les mêmes effets en fonction d'un individu à l'autre. Mais tout de même, j'imagine que ça peut représenter pas mal de femmes. Après, cette lettre, y a, bon, vous savez, c'est ces sites où ensuite il y a plein de commentaires, donc les gens, plein de gens postent leur avis. Et après, ce genre de lettre, en général, plein de gens et plein de femmes postent leur expérience à elles. Donc il y en a effectivement plusieurs qui disaient qu'elles se reconnaissaient vraiment dans ce témoignage, dans le fait que ce genre de contraception leur avait vraiment bousillé leur rapport au désir sexuel. Donc on trouvait ça important de le lire ici aussi, dans cet espace qui est Calibre, parce que c'est ça dont on parle et qu'on, je crois qu'on n'en avait jamais parlé. Et par contre, on parle souvent de ce rapport au désir et qu'est-ce qui fait qu'on a du désir dans la vie ou pas. C'est quand même quelque chose, une question hyper complexe, suffisamment complexe pour qu'on n'ait pas en plus à s'emmerder avec des trucs comme ça à la con, quoi. Mm-mm. Je trouve que c'est dommage, voilà, que... Si plein de femmes ne lient pas, ne font pas l'expérience de voir qu'est-ce que ça donnerait leur vie sexuelle sans contraception, juste pour voir si ça a de l'influence ou pas.
Oui, ou même cette idée juste d'informer vraiment des conséquences que ça peut avoir sur le corps. Parce que moi, je connais plein de personnes qui ont, par exemple, pris la pilule pour avoir moins mal au ventre pendant leurs règles, mais qui n'étaient pas au courant des conséquences sur, par exemple, des prises de poids ou sur... Sur plein de petits trucs en fait compliqués et mais même par exemple sur la question de la libido, combien il y a de jeunes filles qui prennent la pilule pour pas avoir mal au ventre pendant leurs règles, et est-ce qu'elles savent que ça peut potentiellement diminuer leur libido?
Après, moi je crois que j'aimerais bien avoir des explications un peu concrètes sur comment en quoi la prise d'hormones de synthèse chamboule la libido.
C'est la question de où vient la libido.
Oui, en plus. Non, mais c'est vrai. Mais du coup, c'est quand même, ça m'interroge, quoi. J'aimerais bien avoir les explications peut-être scientifiques. Il doit y en avoir, non? Ils ont bien dû réfléchir à ça.
Ouais, je pense qu'ils ont beaucoup réfléchi à ça. Moi, je connais pas trop les réponses. Mais je sais qu'en tout cas, moi, j'ai l'impression que socialement, en tout cas, c'est hyper important d'avoir une libido. Et que se sentir frigide, c'est aussi hyper dur. Qu'on nous renvoie à des moments qu'on est frigide, je trouve que c'est des choses vraiment dures. Et j'ai l'impression que dans nos manières de sociabiliser ou d'être valorisé, ben, la sexualité, c'est quelque chose qui est hyper important. Et si des personnes, elles ont envie d'avoir de la sexualité et qu'elles n'y trouvent pas de plaisir, c'est déjà compliqué. Et si en plus, on leur renvoie que c'est de leur faute ou que c'est pas bien de ne pas prendre de plaisir ou que juste c'est elles qui ont un problème et des choses comme ça.
Que ce serait forcément une origine psychologique.
Voilà.
Ouais.
Ça aide pas du tout à se sentir bien avec cette chose qu'on ne prend pas de plaisir dans la sexualité, par exemple.
Ouais, bon, bah voilà. Moi, je sais pas si on peut dire grand-chose de plus. Tu voulais dire quelque
chose ?
Ouais,
moi, j'avais un peu envie de rebondir sur cette question des gynécos, en fait, parce que je trouve que... Ben, le rapport au gynéco, c'est vraiment un rapport compliqué parce que le gynécologue est un médecin et donc il a une sorte d'autorité ou en tout cas, voilà, on lui fait confiance parce qu'il est censé avoir un savoir. Sauf qu'en fait aussi, la différence, c'est que le médecin qui est en face de nous, il ne connaît pas notre histoire, il ne sait pas ce qu'on a vécu et du coup, il peut aussi à plein de moments faire des choses qui ne nous conviennent pas, qui dépasse nos limites, et que c'est très difficile par son statut de médecin de lui répondre ou de poser ses propres limites, tout ça. Et je trouve justement des lettres comme ça, je les trouve hyper importantes parce qu'elles permettent de se renforcer les unes les autres en racontant nos histoires et en se disant non mais en fait ça va pas, on peut pas laisser passer ça, et du coup de se dire oui, en fait il faut leur répondre, il faut savoir leur poser des questions, pas avoir honte de leur dire qu'on sait pas certaines choses et qu'on veut savoir, leur redemander,
qu'on veut comprendre,
de comprendre, connaître les effets secondaires de ce qu'ils nous proposent comme médicaments et oser le faire, en fait. Et moi, j'ai l'impression que pour oser le faire, il faut aussi en parler, voir les problèmes qu'il y a, échanger sur ces questions-là, rassembler des témoignages, tout ça.
Et qu'aussi, la formation de médecin et de gynécologue, elle a beau être très longue et je pense assez complète, et ben oui, mais ça reste des personnes qui sont à l'image de la société aussi, donc pleine aussi de méconnaissances et de préjugés aussi, je pense, sur la sexualité des femmes et tout ça, malheureusement. Et je pense que c'est des personnes qui ont besoin d'être formées. Et oui, donc, leur écrire ces lettres aussi, pour moi, c'est aussi un intérêt vraiment de former et de les interpeller, quoi, de leur faire prendre conscience de l'importance que ces personnes ont dans la vie des femmes, en fait.
Oui, aussi sur, je pense, des fois des méconnaissances sur, par rapport à d'autres formes de sexualité ou d'autres choix autour de la sexualité ou d'autres choix dans la vie. Ou par exemple, moi, je me souviens d'une gynéco où je lui explique que je ne veux pas d'enfants et que ça ne sert à rien qu'elle me dise que mon appareil génital est parfait pour avoir des enfants, que je m'en fiche d'avoir des ovaires. Et elle me demande pourquoi. Et moi, toujours cette question qui m'hérisse de pourquoi on demande aux femmes qui ne veulent pas d'enfants, pourquoi elles n'en veulent pas, et alors qu'on ne met personne en jeu dans cette histoire quand on ne veut pas d'enfants. Peut-être il faudrait, enfin, et avec l'envie de dire, mais c'est aussi important de réfléchir pourquoi on veut des enfants et pas uniquement pourquoi on n'en veut pas dans la vie, et d'insister, mais vous inquiétez pas, ça va changer, vous savez, on change, et sans se poser de questions là, sans même moi me poser de questions, plus de ben oui, ben c'est possible, peut-être vous aurez pas d'enfants, enfin, et plein de choses comme ça où moi je trouve que régulièrement j'ai eu des contacts avec des gynécos qui étaient pas simples et où ça m'intimidait très fort en fait, leur réaction aussi.
Oui, c'est ce genre de texte et ce que tu dis, ça interroge sur le pouvoir des médecins et comment c'est pas facile pour nous patientes et patients de récupérer un peu de pouvoir quand même sur notre corps, sur notre accès à la santé, sur les choix qu'on peut faire et qui nous appartiennent quand même au final, quoi. Mais oui, pour pouvoir faire des vrais choix, il faut effectivement avoir la connaissance de ce qui existe, de ce qui est possible, quoi, et des conséquences de ça. Enfin, c'est ce qu'elle dit sur le truc de la pilule, quoi.
Et qu'on ne se sente pas jugé aussi par son médecin. C'est aussi ça qui fait qu'à des moments, on se retient de dire des choses ou on n'ose pas, quoi. C'est la peur du jugement, toujours.
On va s'écouter un petit morceau de musique qui parle de masturbation.
C'est un morceau de Cyndi Lauper qui s'appelle Shibop et c'est extrait d'une compile qui s'appelle Girls Want to Have Fun. Et c'est une copine qui a fait cette compile en essayant de rassembler plein de morceaux autour de la masturbation. Et en donnant un peu les textes qu'il y a et les titres des chansons. Et il en reste plein d'autres, mais ça rassemble déjà pas mal de musique.
Yeah.
Vous êtes toujours sur Radio Kaléidoscope avec l'émission Calibre sur 97 FM. Vous pouvez aussi nous écouter sur Internet. Voilà, téléchargez nos émissions si vous n'avez pas, si vous les avez pas écoutées en direct. Et puis nous écrire également si vous nous appelez pas. Bah, vous pouvez nous écrire en écrivant à calibre@poivron.org. Voilà. Alors, Pascal, tu voulais nous lire un petit texte, un slam.
Voilà, alors il y a un nouveau livre que je viens de trouver qui n'est pas forcément très facile à se procurer parce qu'il est auto-imprimé, là un peu, un peu édité de manière indépendante. Et alors, il s'appelle Slam de fond. Et du coup, c'est un jeu de mots, vous voyez, avec lame de fond et slam.
Et ça... Ah, d'accord.
Recueil de slam féministe écrit par des transpédéguines. Alors, il est superbe, il a des beaux dessins dedans, et puis il y a plein de textes, pas mal rentrent dedans, qui parlent beaucoup des questions de sexualité, du fait d'être transpédéguine dans cette société-là, et aussi lié aussi à des réflexions autour de comment l'être, en fait.
Après, j'ai l'impression que ça fait aussi partie de cette forme, le slam, d'être un peu rentre dedans, quoi. J'ai l'impression que souvent, le slam, c'est aussi fait pour revendiquer des choses, pour... Allez, vas-y, on t'écoute.
Ah, je peux vous donner le contact, déjà, si jamais vous voulez récupérer le livre ou quoi. Du coup, il y a un contact, c'est slamdefond@yahoo.fr, et slamdefond, ça s'écrit S-L-A-M-E-D-E-F-O-N-D, tout attaché, vous voyez. Et alors voilà, je vais vous lire, c'est un texte qui m'a pas mal interpellée, qui parle, qui a été écrit par une personne grosse, qui du coup raconte ce que ça signifie d'être grosse dans la rue.
On t'écoute.
Grosse. Il faut bien que je l'admette, je suis grosse. Pas juste ronde, pulpeuse, ni même forte, carrément, complètement grosse. Quand on vient l'oublier, il faut toujours que quelque chose vienne me le rappeler. Comme, par exemple, toutes ces collections de fringues, voire ces magasins entiers qui s'arrêtent environ 10 tailles en dessous de la mienne. Ou alors, comme ces types que je ne connais pas qui viennent m'en faire la remarque dans la rue. J'en ai croisé un comme ça l'autre soir. Il est venu me voir, d'un ton assuré, quoique légèrement aviné, et m'a dit « Hé, la grosse vache, tu pèses combien ?» Ce qui m'a marqué, c'est qu'il avait l'air sûr de son droit, le bonhomme. C'est un truc qui me fascine chez les mecs, particulièrement hétérosexuels, ce sentiment de légitimité. Cette façon de penser que les meufs vont être quelque part à leurs bottes, qu'ils sont là pour les dominer et que c'est l'ordre naturel des choses. Je trouve qu'il y a un truc assez magnifique à voir un type complètement confiant qui pense que tu vas t'écraser, y compris quand le type en question mesure 15 bons centimètres de moins que toi et pèse à peu près la moitié de ton poids. Cela dit, pour le coup, j'ai accédé à sa demande. Parfois, je pense qu'il faut savoir faire preuve de pédagogie. Je l'ai donc foutu par terre d'un coup de mon poing gras et je l'ai regardé avec un sourire bienveillant. « Tu veux vraiment savoir combien je pèse ?» lui ai-je demandé. Et je pense qu'il faut vraiment que je m'y fasse parce que, quand j'ai entendu son cri de douleur lorsque j'ai atterri sur son estomac, les rangers en avant, il a fallu que je me rende à l'évidence. Je suis effectivement carrément complètement grosse. C'est signé par Lev et écrit le 11 juin 2011. Voilà, alors je le trouvais assez renforçant et motivant comme texte.
Oui, effectivement, plutôt que de baisser la tête et de se sentir insulté.
Voilà, alors c'était tiré de Slam de fond, un recueil de slam féministe écrit par des transpédéguines. Et puis, un peu dans la chronique littéraire, j'avais envie de vous parler d'un autre texte qui est un peu sur le même thème. C'est le roman de Margaret Atwood qui s'appelle Lady Oracle. Et du coup, bon voilà, Margaret Atwood, elle est assez connue. Elle a écrit pas mal de romans un peu de fantastiques, enfin, où il se passait des choses un peu mystérieuses, tout ça, dedans. Et moi, j'avais pas mal de présupposés vis-à-vis d'elle. Ça me donnait pas trop envie de la lire. Et puis, en fait, on m'a dit « Si, mais tu verras, c'est trop bien. » Alors, je l'ai pris pour les vacances. Et en fait, il est vraiment chouette. C'est un... Alors, déjà aussi, il a été écrit en 75. Et c'est fou parce que c'est vraiment une histoire un peu moderne, quoi, vraiment. Et c'est fou quand même que des bouquins aient écrit il y a 40 ans et soient si bien. Non, mais je veux dire pas que les vieux bouquins sont nuls, mais que je le trouve vraiment d'actualité, quoi. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un double roman, parce que ça suit l'histoire d'une meuf qui est auteure, et du coup, ça mélange son histoire à elle, et puis d'autres moments, c'est le roman qu'elle est en train d'écrire. Et son histoire à elle, c'est qu'elle se barre de chez son gars, en faisant semblant qu'elle est morte, et elle se barre toute seule, et du coup, c'est vachement lié autour de ses réflexions de partir seule, en fait, de se retrouver toute seule à l'autre bout du monde, parce qu'elle décide de tout plaquer pour échapper à son gars, en fait. Et du coup, c'est un... Ouais, je trouve ça vraiment fort.
Mais c'est quoi le
fort,
rapport avec le sujet du slam ?
Non, mais c'est pas en rapport au sujet du slam, c'est là où ça vient, c'est le sujet de la grosseur.
Ah oui, mais c'est ça, le sujet de oui. qui était dans le slam que t'as lu. C'est ça
et voilà, et alors, un des trucs qui est aussi très fort dans ce texte, c'est que quand elle était adolescente, elle était obèse. Et elle en parle à personne, elle en a hyper honte, et même son mari, il n'est pas au courant qu'elle était obèse, en fait, parce qu'elle a maigri à un moment dans sa vie. Et là, dans le texte, elle raconte vachement son adolescence et sa vie, en fait, elle retrace un peu sa vie. Et en fait, voilà, quand son mari a une photo d'elle entre les mains, où elle est avec sa tante adolescente et qu'elle pèse les 120 kilos qu'elle pesait à l'époque, et ben il lui dit « Ah, mais c'est qui cette personne ?» Elle fait « Oh, c'est une copine du collège à côté, je sais pas quoi. » Et elle feinte, en fait, et elle raconte à personne son histoire. Vraiment, elle le porte comme une honte hyper forte, quoi. Comme si on allait arrêter de l'aimer parce qu'elle avait été grosse dans sa vie. Et tous ces moments-là, et tout, ça raconte hyper bien aussi, je trouve, ce que ça veut dire d'être grosse dans ce monde-là, quoi. Il est très beau. Il se lit comme des petits pains.
Donc, Lady Oracle de Margaret Atwood. C'était la petite chronique littéraire. On a un appel ? Ah, mais attends, la technicienne, elle me fait des signes comme s'il y avait quelqu'un au téléphone. Alors, elle me dit, rappelle le numéro de téléphone aux gens, parce que peut-être qu'ils ont des questions, qu'ils ont envie d'appeler. Voilà, c'est pas simple la communication non verbale, hein. On pourrait faire un sujet là-dessus dans Calibre, oui. Tu pourrais venir, Laura, pour en parler et tout. Non, bon, alors si vous voulez nous appeler, Calibre 04 76 09 09 09, que ce soit pour réagir à ce qu'on raconte là, parce que vous ne seriez pas d'accord, par exemple, ou parce que vous voudriez justement alimenter les discussions et les débats avec des témoignages, avec des expériences, avec des choses que vous auriez vécues, ou alors vraiment pour nous parler de complètement autre chose et changer de sujet parce qu'il y a un truc qui vous taraude ou qui... bref, que voilà, libre antenne, quel que soit le sujet, vous pouvez nous appeler ou nous écrire, comme je disais tout à l'heure. Et voilà, donc le numéro de téléphone 04 76 09 09 09. Nous, on va s'écouter un dernier petit morceau de musique et puis après faire quelques infos, l'agenda, tout ça.
Alors, le morceau qu'on va écouter, c'est un morceau des Peaches qui s'appelle AAXXX.
Triple bypass at the AA, triple X. Here it comes. Make sure you can hear me before you speak up. And then motherfuckers step up. Only double A, thinking triple X. Only double A, working triple X, only double A. Flexing is my doing it right, keeping me tight, taking a bite out of the peach tonight. I like the innocent type, deer in the headlight, rocking me all night. Flexing is my doing it right, keeping me tight, taking a bite out of the peach tonight. Only double A, thinking triple X. Only double A, thinking triple X. Only double A, thinking triple X. Only double A. Yeah. There's more. I'm hexed, I'm vexed, I'm in the devil's text. Some people say that I keep myself respected in my cervix next. I'm hexed, I'm vexed, I'm in the devil's text. Some people say that I keep myself respected in my cervix. Only double A, thinking triple X. Only double A, thinking triple X. Only double A, thinking triple X. Only double.
De Calibre, l'émission de Libre Antenne sur les questions de sexualité, d'amour, de rapport au corps sur Radio Kaléidoscope 97 FM, et je crois que nous pouvons nous excuser platement pour notre mauvais anglais.
Oui, tout à fait, le morceau qu'on vient d'entendre ne s'appelait pas AAXXX mais double A triple X, un truc du genre.
Voilà, donc on pourrait aussi parler des difficultés des Français à parler en anglais, ce serait drôle. Bon, on passe plutôt à une page info. Et alors, vous en avez peut-être déjà entendu parler, ou peut-être pas, parce que c'est pas non plus le genre d'info qui fait la une. Mais c'est quand même assez intéressant. Donc, c'est une info concernant les personnes transsexuelles, mais finalement, ça peut un peu concerner tout le monde, je trouve, qui donc sont officiellement reconnues sur les passeports australiens. Donc l'Australie, qui va devenir le premier pays au monde à permettre aux personnes trans de choisir de se déclarer comme étant de sexe homme, femme ou indéterminé sur leurs documents de voyage. Ça veut dire qu'elles peuvent choisir de se déclarer comme homme ou femme sans avoir forcément subi une opération chirurgicale, ce qui est une première au monde apparemment. Donc bon, il faut quand même avoir, enfin, il y a quand même besoin d'avoir une lettre d'un médecin pour obtenir le document, blablabla. Donc malgré tout, c'est pour des personnes qui sont quand même suivies dans un processus médical, mais ça a l'air quand même plus simple qu'ailleurs. Et alors sur l'histoire du indéterminé, du X, il y a deux différentes versions selon les articles que j'ai trouvés. Alors je me méfie un peu parce qu'il y a des articles qui disent c'est génial, voilà, on peut choisir les personnes transsexuelles qui ne se reconnaissent, non, transgenres, qui ne se reconnaissent ni en tant qu'homme ni en tant que femme peuvent aussi cocher la case X dans la catégorie du genre du passeport. ce qui apparaît comme une très bonne nouvelle. Dans d'autres articles, j'ai plutôt lu que cette catégorie-là, indéterminée ou X, est réservée aux personnes intersexes. Donc les personnes transgenres, ce qui n'est pas la même chose, ne sont pas autorisées à revendiquer l'indétermination et ne peuvent pas choisir un genre différent de homme ou femme. Ce qui est un petit truc quand même qui n'est pas si positif que ça, quoi. Est-ce qu'il faut rappeler la différence entre intersexe et transgenre ?
Et transsexuel.
Et transsexuel ?
On peut. Une personne intersexe, c'est une personne qui naît et qui n'a pas des organes sexuels très clairement masculins ou féminins, ou quand il apparaît qu'à l'adolescence... on s'est trompé au moment de leur naissance, ou ça peut être aussi lié, on peut considérer que certaines personnes sont intersexuelles parce qu'elles ont des taux d'hormones très différents de ce qui devrait être en rapport avec leur sexe visible.
Voilà. Alors que des personnes transsexuelles ou transgenres sont des personnes qui ont été assignées un sexe à leur naissance, à un sexe biologique, voilà, et qui ont choisi de changer de sexe ou de changer de genre.
Du coup, le genre qui serait le morceau social de notre identité, par exemple, féminine ou masculine, qui serait différent du coup du sexuel, qui est genre mâle ou femelle, pour parler avec des mots très biologiques.
Voilà, bon, c'est un peu compliqué. Puis, bon, j'espère que vous nous comprenez. Sinon, je crois que la semaine dernière à Calibre, elles ont pas mal expliqué cette histoire de concept de genre. Alors peut-être ça pourrait vous aider. En tout cas, c'est une nouvelle qui fait du coup, qui paraît assez importante dans les luttes pour les droits des personnes transsexuelles. Au niveau mondial, donc il y a des associations qui sont assez contentes et tout, parce que surtout sur le fait que ce soit pas obligatoire de subir une intervention chirurgicale ou de stérilisation pour obtenir le droit de marquer sur un papier d'identité le passeport son identité de genre. Malgré tout, voilà, il y a ce truc un peu plus négatif sur l'histoire que la catégorie X serait réservée aux personnes intersexuées et non pas aux personnes transgenres. Ce qui est dommage parce que donc voilà, c'est pas l'abolition du genre, quoi. C'est pas, on n'en a plus rien à faire, ça n'existe plus, on va plus marquer les individus en fonction de si vous êtes né avec une chatte, un pénis ou autre chose, et en fonction de qu'est-ce que vous avez envie d'être dans la vie, quoi. Ce qui serait peut-être un peu plus intéressant. Mais bon, on est dans une société de contrôle où il faut bien reconnaître les gens qui passent les frontières, n'est-ce pas ? Donc on pourrait aussi parler de l'intérêt des papiers et des papiers d'identité.
Après ça, on avait un peu envie de vous rappeler avec la rentrée les permanences et les moments où on pouvait rencontrer les associations LGBT à Grenoble. LGBT, c'est lesbienne, gay, bi, trans. Des fois, c'est LGBTI pour ajouter intersexué.
Il y a même LGBTTIQ pour queer. Enfin, on peut, voilà.
Et T pour travesti. Enfin, c'est à rallonge parfois. En tout cas, à Grenoble, on peut noter une première asso qui... Alors, les trois assos dont je vais vous parler sont au 8 rue Sergent Bobillot. C'est... pas très loin des grands boulevards. Alors, il y en a une qui est pour, du coup, les gays. Ça s'appelle Ageux Égal et qui est,
C'est pour les gays et les lesbiennes.
Ah, c'est gay et lesbiennes. Ah, mais je croyais que c'était... Bon, c'est une asso LGBT, du coup. Et du coup, qui a envie de convivialité, de militance et de prévention, qui fait de l'accueil, de l'écoute, de l'information. Et c'est leur permanence, c'est tous les jeudis de 19h à 20h30, rue Sergent Bobillot. Et du coup, ce qu'on peut noter, c'est que le 29, du coup jeudi prochain, ils organisent un pique-nique. Du coup, ils invitent tout le monde à se rendre là-bas avec à manger comme une auberge espagnole et après partir pour faire un pique-nique dans un parc. Alors, il propose que les personnes qui sont jamais venues aux permanences viennent un peu avant pour rencontrer l'équipe. Et puis ensuite, sinon, si vous connaissez déjà, eh ben, vous pouvez venir à partir de 20h30 au local pour ensuite aller pique-niquer s'il fait beau.
Alors, il y a aussi l'association des Voidelles.
Les Voidelles, les lesbiennes de Grenoble. Alors, c'est une association lesbienne militante, pour le coup qui est en non-mixité lesbienne. Et voilà, un peu pour partager ses expériences, ses vécus, discuter, se rencontrer, aussi partager des moments de fête et de convivialité ou de promenade, tout ça. Elles organisent vraiment très souvent des sorties ou des activités.
On peut les rencontrer le lundi soir.
De 19h30 à 21h30, pareil au local de la Cigale. Ensuite, il y a l'association Contact, qui est un regroupement pour les homosexuels et leurs familles, pour dédramatiser, comme ils disent, ou pour se rassurer quant à l'homosexualité de ses proches et pour se sentir mieux avec cette idée, et aussi pour sa propre homosexualité, j'imagine. Et voilà, ils sont au même endroit, et leur permanence, c'est tous les vendredis de 18h30 à 20h.
Donc au même endroit, 8 rue Sergent Bobillot, parce que toutes ces associations sont réunies sous un collectif qui s'appelle Cigale.
Voilà.
C'est ça. Et donc c'est le bâtiment de où il y a aussi un centre social de la mairie, le CCAS, voilà. Tout ça.
Et si jamais vous voulez connaître les activités qu'ils proposent, tout ça, sur le site de Hétéroclite, un journal rhône-alpien, enfin une revue rhône-alpienne LGBT qui rassemble... Du coup, ils ont dans leur revue papier, ils parlent beaucoup des agendas et puis on peut aussi trouver l'agenda sur Internet.
Ok. Alors, en parlant d'agenda, nous, on a des petites soirées ou des petits trucs à vous proposer pour remplir vos agendas à Grenoble ou ailleurs. Samedi prochain, le 24 septembre, enfin samedi là dans deux jours, quoi. Il y a une soirée Timulte. Alors Timulte, c'est une revue politique qui malaxe depuis 2 ans récits et analyses critiques pour fabriquer des textes que nous prenons plaisir à lire, qui nous inspirent et qui soutiennent nos luttes. Timulte veut aussi péter la gueule à cette légende de l'écriture savante, au monopole du stylo par les théoriciens aguerris et méprisants. Écrire peut être marrant, facile, tripant, renforçant, perplexifiant. Alors, justement, pour prouver tout ça, eh ben, Timulte nous propose à 17h un atelier d'écriture sur le thème du féminisme et de la lutte des classes. Et donc, c'est au local autogéré, 7 rue Pierre-Dupont à Grenoble, samedi 24 septembre. Donc, un atelier d'écriture, mais attention, ne croyez pas que c'est un truc tout pourri, une activité de centre aéré, un machin médiocre et rébarbatif, vaguement en lien avec les débris de l'éducation populaire. D'une part, il y a des trucs pas si pourraves à prendre dans l'éducation populaire. Ensuite, alors là, hein, c'est complètement faux d'abord. Ces ateliers sont hyper méga tripants. Venez.
Et alors, c'est sur ce thème féminisme et lutte des classes, c'est un peu flou et vague comme ça. Mais du coup, il y a une discussion à 20h qui suit et qui pose pas mal de questions. Et ces questions, c'est un peu les mêmes qui vont être travaillées pendant l'atelier d'écriture à 17h.
Voilà, donc à 20h, une discussion féminisme et lutte des classes. Quel lien entre classe et de genre? Féminisme contre lutte des classes? Féminisme dans les luttes de classe? Ou rapport de classe dans le féminisme. Et puis on parlera de Timulte et de la presse politique indépendante, si vous voulez.
Voilà, alors un peu plein de questions complexes, mais qui peuvent être intéressantes, justement, de comment on peut retrouver des questions de rapport de classe partout, des questions de féminisme partout.
Donc voilà, c'est au local autogéré, 7 rue Pierre-Dupont, c'est dans le quartier de l'Aigle, Saint-Bruno... Voilà, donc si vous voulez, le numéro du local autogéré, 09 52 10 07 38. Et un autre info, alors cette fois-ci c'est à Lyon, mais ça nous semblait important, c'est une manifestation contre la répression des travailleuses du sexe. Donc une manifestation qui aura lieu le jeudi 29 septembre, place Jean Massé à 14h, donc à Lyon. Parce que depuis le mois de juillet, les lieux de prostitution de Lyon font l'objet d'une surveillance policière très forte. Tout l'été, les personnes prostituées ont été harcelées par les pouvoirs publics et les forces de l'ordre. PV de 35€ à répétition, mise en fourrière successive à 130€ pouvant aller jusqu'à 3 fois par jour. Il est inconcevable que cette situation se prolonge. C'est pourquoi les personnes prostituées organisent une manifestation le 29 septembre, à l'issue de laquelle elles espèrent pouvoir rencontrer le préfet du Rhône. Rejoignez-les, départ 14h, place Jean Massé. Vous pouvez venir avec vos parapluies rouges, je crois que c'est un peu leur symbole. Et des masques seront fournis pour les personnes qui souhaitent rester anonymes. Donc voilà, ça nous semble une solidarité importante à exprimer. Donc si vous pouvez aller à Lyon le jeudi 29 septembre à 14h, le rendez-vous est place Jean Massé.
Et une dernière info, pour continuer à écouter Radio Kaléidoscope, mercredi prochain, il y a une émission de Dégenrée, qui est une émission de radio féministe qui est en antenne tous les 15 jours sur Radio Kaléidoscope et qui vont parler du masculinisme. Du coup, ce sera mercredi 28 septembre de 18h30 à 20h.
Sur la même radio.
Radio Kaléidoscope 97 FM.
Sur ce, on vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve jeudi prochain, 20h pour Calibre. Vous pourrez nous appeler au 04 76 09 09 09. On vous souhaite une très bonne soirée.
Au revoir.
Ciao.
Corps,
amour, sexualité.
Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.